Bonjour à tous, ceci est ma première chronique sur Radio Judaïka, celle qui va vous donner le ton pour les suivantes et qui vous donnera envie d'allumer ou non votre radio. Alors moi je m'appelle Sarah, je suis avocate en droit international et dans ces chroniques on va essayer de s'instruire mais de façon un peu légère. Et pour commencer, je voudrais vous parler d'espoir. Notre monde va mal et vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, on est tous en train de se déchirer et de se diviser pour un oui ou pour un non. Alors aujourd'hui, je voudrais vous demander d'y croire et pour cela, je vais vous parler du Rwanda. Le Rwanda, c'est ce génocide innommable où pendant 100 jours en 1994, 800 000 personnes, principalement de l'ethnie Tutsi, furent massacrées par leurs voisins de l'ethnie Hutu à cause de décennies de conflits ethniques. Et là, vous allez me dire, non mais attends Sarah, c'est triste ce que tu nous racontes. T'as dit que tu allais nous parler d'espoir. On le sait qu'il y a eu cette tragédie. Oui, mais est-ce que vous savez que cette tragédie a pris fin et que de l'obscurité, la lumière est revenue? D'une part, le Rwanda a su se relever. Le pays a connu une croissance presque toujours supérieure à 4% par an depuis le génocide et il a vu son PIB par habitant presque quadrupler. Certains articles le désignent même comme la Singapour de l'Afrique. Inimaginable pour un pays qui s'est détruit de l'intérieur en plusieurs décennies. Et sa population? Comment, quand on a passé des décennies à s'opposer les uns les autres, a-t-on réussi à réconcilier l'inconciliable? Eh bien c'est bien simple, par une résilience extraordinaire. En premier lieu, le Rwanda a mis en place une politique de réconciliation en créant une identité nationale. C'est bien simple, on a appris à l'école aux enfants qu'ils devaient être Rwandais avant d'être Hutu ou Tutsi. Et les écoliers vous le disent eux-mêmes aujourd'hui, ils s'en fichent de l'ethnie de leurs camarades. Et à l'heure où aujourd'hui, dans une partie du monde, des générations d'enfants grandiront avec l'idée que le voisin a détruit sa maison, tué ses frères et sœurs, à l'heure où les horreurs commises par des fous justifient la radicalisation de certains discours, au Rwanda, les survivants ont réussi le tour de force extraordinaire de penser à l'avenir et aux ravages que ce type de discours produirait sur le futur de leurs enfants. « Ton père n'est plus là, car il a été tué par un Hutu. Notre maison a été détruite, car les Hutus y ont mis le feu. » Voilà ce qu'ils auraient pu dire. On aurait pu mettre l'accent sur la victimisation et la colère. Et au lieu de ça, on a compris qu'en prononçant ces paroles, ces mêmes schémas de violence auraient été répétés inlassablement. Et c'est bien simple. Au Rwanda aujourd'hui, plus personne ne tient ce genre de discours. Et le Rwanda a également mené une réponse judiciaire forte avec les Gacaca, qui sont des tribunaux locaux qui ont pourchassé et condamné tous les auteurs du génocide, amenant à la condamnation de 800 000 personnes. C'est énorme, autant vous dire qu'il n'y a personne qui y a échappé. Et l'objectif était clair, ne pas laisser aux victimes un sentiment que les crimes avaient été impunis, ce qui aurait amené une certaine frustration de leur part et l'envie à leur tour de chercher vengeance ou justice soi-même. En punissant les coupables, tous les coupables, le Rwanda a mis fin à un cycle de vengeance qui aurait pu durer encore des décennies. On a eu aussi une politique de dialogue avec la mise en place de villages de réconciliation. Ce sont des villages créés en 2005 où les Hutus et Tutsi, bourreaux et victimes, cohabitent ensemble. C'est surhumain. Et pourtant, ça a marché. Et enfin, on a eu toujours dans ces mêmes villages ce mouvement qui s'est créé spontanément chez la société rwandaise, le pardon. Par exemple, après la guerre, dans la petite commune de Guieta au Rwanda, à la base, ce village était divisé en deux, une partie Hutu et une partie Tutsi, et avec un seul puits d'eau qui alimentait la commune. Et pendant des années, on a mis en place des tours d'eau pour accéder à l'eau. Et puis, petit à petit, le dialogue est revenu autour de ce petit puits. Parce que c'est vrai, quand on a la sécheresse, quand les récoltes se font maigres, on s'en fout un peu d'attendre effectivement 100 jours pour aller récolter de l'eau. Alors on est obligé de dialoguer, de cohabiter, et surtout de se soutenir. Et dans tous ces autres villages au Rwanda, on a eu des Hutus qui petit à petit ont fait la démarche d'aller demander pardon. Et dans ces larmes, les Tutsis ont écouté, patiemment. Et ils ont, dans une incroyable noblesse, donné la parole à leurs bourreaux et ouvert la voie à la réconciliation. Ça n'a pas été parfait, mais c'est en bonne voie. Et la preuve en est qu'il n'y a plus de conflit ethnique au Rwanda et que le pays est en paix. Alors cette histoire, elle est là pour vous donner de l'espoir, pour vous montrer que on peut y arriver, mais pour cela, tout dépend de nous. Nous et notre capacité à se raccrocher à des valeurs saines, à rejeter le dualisme, les discours radicaux, la violence et la vengeance, et au contraire, privilégier ce qui fonde notre raison, la justice, le dialogue et le pardon. Car quand toute cette violence, toute notre haine collective prendra fin dans les larmes et le sang, que va-t-il rester? Le Rwanda vous répondra, il ne restera rien. Des cendres, des cadavres par milliers et nos larmes pour pleurer. Et dans notre processus de reconstruction, on aura alors le choix. On peut choisir de répéter le « toi » contre « moi » et continuer de s'opposer. Ou on peut choisir le « nous » et demander pardon. Donc je vous remercie et je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.